conférence consacrée au protestantisme et à la guerre. On a essayé, on a tenté, au travers des diverses conférences proposées pendant ce cycle, de décliner un peu le thème, cette relation entre le protestantisme et la guerre, sous toutes ses facettes, et pas que les aspects les plus positifs, puisque nous avons vu que les protestants avaient été capables aussi de mener des guerres coloniales, d'intégrer, y compris dans le discours sacré ou spirituel, entre guillemets, à savoir le sermon, d'intégrer la justification de la guerre et même de pousser à la guerre, par exemple, lors des sermons proclamés, prêchés sous l'Empire. Donc la question du rapport entre protestants et guerre n'est pas un rapport aussi positif qu'on veut bien l'envisager parfois, hein, notamment avec la guerre des Camisards où les protestants sont en position positive puisqu'ils luttent pour la liberté de conscience, ou lors de la Seconde Guerre mondiale où les protestants, cette fois, hein, sont des sauveteurs des juifs persécutés par l'Allemagne nazie, recherchés par l'Allemagne nazie, hein, faisant de ces protestants, hein, pour une grande partie, des justes parmi les nations, puisque vous savez, hein, sans doute, que les protestants, parmi les justes, sont justement surreprésentés, hein, en France, alors que les protestants représentent à peu près 2 à 3% de la population française, ils représentent 10% des justes parmi les nations, hein, ce qui montre bien donc cette capacité qu'ont les protestants à sauver des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais au-delà de ces aspects positifs, justement, hein, on a tenté de montrer que le rapport du protestantisme à la guerre n'a pas été un rapport que d'alliance agréable, d'alliance positive, et les protestants se sont aussi, entre guillemets, salis les mains. Alors ce soir, on termine notre cycle de conférences avec une conférence de philosophie. Emmanuel Pasquier,
bonsoir.
Je remercie d'avoir accepté notre invitation et est venu donc de Paris. Il est enseignant à l'université de Nanterre, notamment. Il a fait ses recherches sur la question du droit. Et il est donc particulièrement indiqué, hein, pour nous parler de ce soir, du thème de ce soir, la guerre juste existe-t-elle ? Une question aussi d'actualité, à un moment, hein, où, évidemment, les guerres, et notamment les guerres internationales, au nom du droit international, se multiplient, hein, dans notre siècle. Alors, pour moi, c'est une question qui remonte, au fond, à mes études d'histoire romaine, hein, puisque dans la Rome antique, eh bien, on ne déclenchait une guerre qu'après décision du Sénat, après Senatus Consulte, donc après que le Sénat ait pris une position juridique et que les armées romaines donc puissent légitimement, hein, juridiquement, eh bien, mener la guerre. Mais après aussi, hein, qu'on ait ouvert le fameux temple de Janus, ce qui donnait aussi une caution morale à la guerre menée par les Romains. Voilà. Donc j'avais un peu en arrière-plan cette problématique-là, et on va voir ce soir, hein, comment Emmanuel Pasquier nous propose d'aborder ce thème de la guerre juste. Je lui laisse tout de suite la parole pour 45-50 minutes d'intervention, et après quoi je vous propose d'avoir donc 15 à 20 minutes, hein, de questions, de réactions et de débats autour de ce thème. Voilà.
Merci beaucoup de me recevoir ce soir, m'a fait l'honneur de me solliciter sur ce thème. Merci à vous tous d'être présents pour venir écouter ce que modestement j'ai à réfléchir sur le sujet. Juste pour justifier justement ma présence ici ce soir, j'ai écrit il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, disons, j'ai publié un livre tiré de ma thèse qui s'appelle « De Genève à Nuremberg », que je me suis permis d'apporter, ce gros livre jaune, Carl Schmitt, Hans Kelsen et le droit international. Voilà, qui justifie en quelque sorte qu'on puisse effectivement faire appel à moi pour parler de la guerre juste. C'est pas le thème central du livre qui est plus vaste, qui était l'exégèse de deux auteurs antagonistes du XXe siècle et de l'entre-deux-guerres, que sont Hans Kelsen, représentant du positivisme juridique, juif persécuté par le nazisme, émigré aux États-Unis, et son ennemi Carl Schmitt, que vous connaissez peut-être de nom, et lui, à l'inverse, gravement compromis avec le régime nazi, puisqu'il voulait être le kronjuriste du Troisième Reich, voilà, inquiété finalement par le régime nazi lui-même, puis interrogé à Nuremberg, puis mis à la retraite, tout simplement. Voilà, Carl Schmitt contre Hans Kelsen, c'était un petit peu deux pôles à propos de la pensée du droit, et du droit international en particulier. Et si je les mentionne, c'est parce que je m'arrêterai un petit peu sur Carl Schmitt, parce que c'est c'est lui qui, dans une certaine mesure, a le plus parlé et peut-être même contribué à ramener sur le devant de la scène, de manière critique, le thème de la guerre juste, voilà, entre autres. Alors, ce serait ça mon début, d'ailleurs, ce serait de dire que la guerre juste est d'une certaine manière un thème relativement à la mode, en quelque sorte, ou soit à la mode, soit présent, de fait, dans l'actualité, peut-être parce que la guerre, malheureusement, les guerres, ou les conflits, en tout cas, sont extrêmement présents dans l'actualité. Et donc, on me pose la question, existe-t-il des guerres justes ? Et à titre préliminaire, je voudrais juste dire que c'est en philosophe que j'aborderai cette question et pas en politiste. C'est-à-dire que je ne suis ni historien, ni spécialiste de sciences politiques, donc certainement pas un expert qui pourrait passer en revue avec vous les conflits d'aujourd'hui et essayer de déterminer s'ils sont justes ou pas, si nous avons raison d'intervenir ici et de ne pas intervenir là, etc. Là, je suis à armes égales avec quiconque lit la presse, etc. Voilà. Donc c'est en philosophe que j'aborde cette question, c'est-à-dire que finalement, la manière dont j'ai appréhendé cette question, c'est le concept de guerre juste est-il bien constitué ? Voilà. Que signifie finalement la notion même de guerre juste ? Comment elle prend forme ? Comment elle est éventuellement critiquable, critiquée ? Comment elle est traitée aujourd'hui ? J'ai amené quelques livres, puisque c'est une librairie qui m'invite, on est dans une médiathèque, donc le mien de Genève à Nuremberg, mais aussi pour refléter une certaine actualité de la guerre juste, j'ai apporté les livres dont je me suis moi-même servi pour réfléchir à tout ça. En particulier, je mentionnerai le livre de Michael Walzer, qui n'est pas récent, il date de 1977, mais il a été traduit plus récemment, il est republié en 2001 avec un après-propos inédit de l'auteur en français. Voilà, c'est le classique en quelque sorte sur la question de la guerre juste aujourd'hui. D'autres livres, un livre d'un format plus petit qui fait le point sur les doctrines actuelles de Christian Nadeau et Julie Saada, Guerre juste, guerre injuste, philosophie chez PUF. Un livre au titre évocateur, Le retour de la guerre juste, écrit par ma collègue et amie Céline Join, qui est en fait, dont le titre est à la fois pleinement dans notre thématique ce soir, et en même temps le contenu est quand même assez précis, parce que c'est là aussi un livre sur Carl Schmitt, plus précisément. Justifier la guerre, un collectif dirigé par Pierre Asner, par deux philosophes, enfin par un philosophe, et Gilles Andréani, qui lui pose des questions plus d'actualité, vraiment qui correspondraient bien, je dirais, à la thématique de ce soir et à la question de la pertinence de ce concept de guerre juste aujourd'hui. Et puis deux livres un petit peu décalés qui m'ont aussi aidé à réfléchir. Le livre de Danilo Zolo, philosophe italien, très critique sur ce qu'il appelle la justice des vainqueurs, et donc un certain dévoiement du concept de guerre juste au profit finalement de l'établissement d'un discours officiel par les vainqueurs, comme le sous-titre le dit, hein, c'est de Nuremberg à Bagdad. Ça c'est très critique, pas forcément très apprécié d'ailleurs par les théoriciens, les philosophes de la guerre juste plus normativistes, qui veulent juste se situer du côté du droit et qui ne veulent pas forcément entrer dans des débats politiques trop polémiques. Et puis un livre très très bien qui est Théorie du drone de Grégoire Chamaillou, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui réfléchit sur l'usage des drones dans les conflits américains en particulier contemporains et la manière dont ça modifie le champ de bataille, on peut dire. Voilà. Puis j'ai un autre livre en tête de mon collègue Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, qui a publié un livre aussi récemment qui s'appelle « La guerre au nom de l'humanité » et qui situe bien aussi les enjeux de la guerre juste aujourd'hui en tant qu'elle est justement menée au nom de l'humanité. Alors, que dire sur la guerre juste, sur le concept de guerre juste ? Tout le monde comprend bien que c'est un oxymore, d'abord. Hein, c'est l'association de termes a priori contradictoires. Ou pour tout de suite compliquer les choses, je dirais que c'est à la fois un oxymore et une tautologie. Alors un oxymore parce que, évidemment, la guerre nous renvoie au plus grand désordre. Et Clausewitz a beau dire que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Quand il dit ça, il le dit avec le sens du paradoxe de cette formule, et que, bien sûr, la guerre apparaît plutôt comme, a priori, la fin de la politique, au sens policé de la politique, c'est-à-dire au sens où, précisément, la politique est l'art de contenir, de prévenir les conflits. Et donc, la guerre, c'est potentiellement le dérapage incontrôlé. J'évoquerai un concept, d'ailleurs, qui est proposé par Schmitt, qui vient de l'Antiquité, et qui est travaillé par une de mes collègues qui s'appelle Ninon Granger, qui est le concept de stasis, qu'on traduit souvent par guerre civile, mais qui désigne justement le moment où la guerre devient vraiment la dérégulation totale. Il y a ça derrière la manière dont nous entendons le mot « guerre ». Nous pouvons effectivement, nous avons une tradition de la guerre juste qui remonte aux Romains, qui est une guerre en forme, qui est déclarée selon certaines formes, etc., et qui fait que, de Cicéron à Clausewitz, la guerre, finalement, peut apparaître comme encore prise dans la politique, même si elle est conflictuelle, mais le concept de guerre est ambivalent. Quand on l'appréhende sous cette forme, dans une certaine mesure, on le domestique, on en propose une appréhension relativement policée, à laquelle le concept de guerre juste d'ailleurs contribue, mais derrière le concept de guerre, il y a celui de ce concept grec de stasis, c'est-à-dire, c'est difficile à traduire, mais disons de guerre comme désordre total, qui ne relève même plus de la guerre civile, qui ne relève plus d'une guerre dans des formes quelconques, et qui mène on ne sait pas où, c'est-à-dire une figure de l'hubris, une figure de la démesure pleine et entière. Voilà. Donc, si on admet que la guerre, c'est ça, évidemment, c'est le moment où il y a une dissolution de toute valeur commune. Et dans ce cadre-là, la notion de guerre juste est tout simplement contradictoire, évidemment. En revanche, du coup, la justice n'existe plus. Excusez-moi, je me raccroche, je parle et en même temps, je lis mes notes un petit peu. Je vais essayer d'harmoniser ça. La justice ne peut plus exister dans ce cadre, puisque, dans une certaine mesure, elle est précisément l'enjeu du conflit. En sens, l'expression « guerre juste » est en même temps tautologique. Pourquoi ? Parce qu'elle renvoie à une situation où chacune des parties, chacun des belligérants, réclame pour lui la justice. Chacun des camps en présence estime être celui qui détient la justice. Il n'y a pas de belligérant qui n'estime pas être lui-même le gardien de son bon droit et de la justice de la cause qu'il défend. La plupart des conflits opposent finalement des victimes ou des gens qui, dans la narration qu'ils font du conflit, se présentent eux comme les victimes qui doivent répondre à une attaque extérieure, y compris dans les conflits les plus dissymétriques, y compris dans des conflits où l'équilibre des forces est visiblement en faveur de l'un plutôt que de l'autre, le discours des deux côtés est toujours celui de la justice. Si on pense par exemple aujourd'hui, pour prendre un exemple extrême, à l'État islamique, du point de vue occidental, c'est les pires des terroristes et pratiquement un camp de barbares déstructurés dont on comprend mal quelles sont leurs finalités. Tandis qu'eux désignent le camp occidental comme le camp des croisés, et c'est à eux-mêmes réagissent dans les termes qui ne sont d'ailleurs pas ceux de la guerre juste, mais plutôt ceux de la guerre sainte, qui est un petit peu différent, réagissent à ce qu'ils estiment être une agression globale de l'Occident contre eux. En ce sens, donc, le temps de la guerre suspend la justice, et il faudra attendre l'après-guerre. S'il a l'heure d'advenir, une nouvelle stabilisation politique en tout cas, pour qu'un discours émerge et pour qu'une forme de narration officielle qui n'est pas nécessairement réductible au discours des vainqueurs. Je pense qu'il faut prendre ses distances peut-être par rapport à cette notion de justice des vainqueurs. Il ne faut pas s'y laisser, se laisser séduire par ces simplifications. Mais en tout cas, il faut bien qu'il y ait un après-guerre, qu'il y ait un après-coup, et qu'il y ait une narration historique qui puisse émerger et qui vienne justifier les événements, qui vienne présenter les événements selon un certain ordre. Poser la question de la guerre juste aujourd'hui, hors du contexte médiéval dont nous héritons cette doctrine, le nom de cette doctrine, qui était donc à l'époque adossée à une transcendance, à la croyance en une transcendance qui permettait de se placer, ou en tout cas de croire pouvoir se placer du point de vue de Dieu lui-même, au-dessus des parties. Aujourd'hui, si nous n'adoptons plus ce point de vue, on se retrouve face à l'alternative suivante. Est-ce qu'il y a moyen malgré tout de dégager un point de vue objectif, c'est-à-dire des valeurs morales universelles, universelles, universalisables, qui permettent d'évaluer un conflit en cours? Et de ce point de vue-là, le philosophe serait peut-être capable, est celui vers qui on se tourne peut-être, pour s'émanciper par rapport au point de vue de son propre camp, de son propre gouvernement, et peut-être même des présupposés ancrés dans sa propre culture, et qui pourrait nous guider, nous éclairer sur ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Je dis tout de suite que je ne prétendrai pas prendre cette position, mais enfin, en tout cas, clairement, c'est une option possible. Voilà. Ou bien, l'alternative est la suivante, ou bien on réinvente un universalisme et on arrive à fonder des valeurs, ou bien on est acculé à un simple relativisme des valeurs et on admet que chacun voit midi à son clocher. Et que la notion de guerre juste ne peut avoir de sens, au fond, qu'a posteriori, en fonction de la manière dont le conflit sera ultimement résolu. Et le conflit, dans ce cas, est alors considéré simultanément un conflit matériel, il est toujours aussi un conflit de discours, un conflit de narration. Et la résolution du conflit, c'est, d'une certaine manière, une certaine réunification du discours, soit par l'élimination pure et simple de ceux qui feraient entendre des voix discordantes, soit par leur réduction au silence, d'une manière ou d'une autre, au nom, par exemple, du fait que la paix, finalement, peut-être vaut mieux que la justice pure et dure, le renoncement à l'aphorisme et à l'exigence « fiat justitia, pereat mundus », que la justice soit et que le monde périsse. Beaucoup de conflits, il me semble, s'apaisent dans le renoncement à cette phrase. Évidemment, on pourra toujours dire « pas de paix sans justice », c'est vrai aussi, mais en même temps, il faut bien reconnaître que l'exigence d'une justice qui n'est jamais complètement décidée, dont il n'y a pas de moyen objectif de déterminer en quoi elle est, cette exigence radicale de justice est parfois l'ennemi d'une pacification qui appelle des procédures d'amnistie, de l'oubli, et le fait du deuil et le fait de privilégier l'avenir par rapport au passé. Une autre question qui se pose à propos de ce thème, c'est pourquoi parler de guerre juste ? Dans quel contexte en vient-on à reposer cette question ? Est-ce que ce n'est pas une question, dans une certaine mesure, un peu suspecte, une question de philosophe ? Là encore, vous entendrez que je le dis de manière un petit peu péjorative. À savoir qu'on demande aux philosophes pas seulement de faire émerger des valeurs universalistes, comme je disais tout à l'heure, mais peut-être qu'on demande ici aux philosophes de justifier certains choix stratégiques. C'est-à-dire que celui qui définit la guerre juste, il peut être mis au service du pouvoir qui a besoin qu'on lui justifie sa guerre. Ou inversement, d'ailleurs, on peut demander aussi aux philosophes de produire un discours subversif contre les pouvoirs, à ce moment-là, d'être celui qui prend la posture dans l'espace public de critiquer des décisions qui ont été prises. En tout cas, la thématisation de la guerre juste, le discours sur la guerre juste, il risque toujours lui-même d'être situé dans un cadre de conflit dans lequel, finalement, celui qui va définir ce qu'est la guerre juste va être amené, dans son discours même, à prendre des positions. Je veux dire que toute entrée dans un conflit, comme toute décision politique, a besoin de légitimation. D'accord ? Mais que peut-être que le concept de guerre juste n'est pas aujourd'hui le plus pertinent pour penser les légitimations des conflits. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mes lectures d'ailleurs. Beaucoup d'auteurs tendent à dire, bon, le concept de guerre juste a une histoire derrière lui, mais il faut peut-être prendre ses distances par rapport à lui. Oui, il y a une actualité de la guerre. Oui, il y a une question de la justice. Mais la guerre n'est plus un concept très univoque. Elle laisse place à des conflits multiformes. Quant à la question de la légitimation, elle ne se confond pas exactement avec la question de la justice avec un grand J, tombée du ciel en quelque sorte. Donc oui, nous sommes confrontés, pas seulement le philosophe ni le pouvoir, mais chacun des citoyens, nous sommes confrontés à la question de la légitimation des conflits. Pour autant, peut-être que le chemin de la guerre juste, le recours à la tradition doctrinale de la guerre juste, n'est pas le plus opportun. Peut-être qu'il faut aujourd'hui parler de question de la légitimité des conflits et oublier la thématique de la guerre juste. Alors, c'est cette question finalement dans laquelle que je voudrais explorer progressivement. Ça, c'était l'introduction. Je vais revenir donc dans mon exposé sur, au fond, différents usages de ce concept de guerre juste pour poser cette dernière question. Alors, d'une part, des choses que vous avez peut-être déjà rencontrées, la formalisation classique de la guerre juste au Moyen-Âge en particulier. D'autre part, une chose que je connais là de plus professionnellement, le renouveau du concept de guerre juste dans l'entre-deux-guerres et la critique particulière auquel il a donné lieu par Carl Schmitt. Et puis, le renouveau contemporain de cette notion dans les années 80 d'abord, et puis ensuite, avec sa reprise, après les attentats du 11 septembre, et puis, dans une certaine mesure, aujourd'hui. Dans le fond, et à contrario de ce que je viens en quelque sorte d'annoncer, j'essaierai de justifier le fait qu'on puisse poser aujourd'hui la question de la guerre juste, mais à condition d'y apporter un certain nombre de modifications que j'essaierai d'expliquer. Alors, premier point, le concept médiéval de bellum justum, ou guerre juste, vu d'ici, vu de notre époque, le Moyen-Âge est rassurant. Peut-être pas les guerres du Moyen-Âge, mais les concepts du Moyen-Âge sont rassurants parce que, voilà, on se tourne, par exemple, on peut se tourner sur saint Thomas, et le concept, la doctrine de la guerre juste, je crois qu'une partie de ce qui fait son succès jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il présente des critères. Voilà. Et ça, on aime les critères, on mettrait en place une liste d'éléments bien définis, qui permettrait de savoir si on est dans le juste ou non. Et c'est ça qu'on appelle la doctrine de la guerre juste, en particulier, il y a beaucoup de textes de référence, il y a dès l'Antiquité le De Officiis de Cicéron, chez saint Augustin, un certain nombre de textes. Un texte souvent, un texte central, c'est la Somme théologique, un chapitre de la Somme théologique de saint Thomas, dans une partie qui est consacrée à la charité, d'ailleurs. Et c'est dans une partie consacrée à la charité que saint Thomas définit les trois critères, selon lui, de la guerre juste. Je peux vous en lire un petit passage. Pour qu'une guerre soit juste, dit-il, trois conditions sont requises. L'autorité du prince, sur l'ordre de qui on doit faire la guerre. Il n'est pas du ressort d'une personne privée d'engager une guerre, car elle peut faire valoir son droit au tribunal de son supérieur, parce qu'aussi le fait de convoquer la multitude nécessaire pour la guerre n'appartient pas à une personne privée. Puisque le soin des affaires publiques a été confié au prince, c'est à eux qu'il appartient de veiller au bien public de la cité, du royaume ou de la province soumis à leur autorité. De même qu'ils le défendent licitement par le glaive contre les perturbateurs du dedans quand ils punissent les malfaiteurs, selon cette parole de l'apôtre, ce n'est pas en vain qu'ils portent le glaive. Il est ministre de Dieu pour faire justice et châtier celui qui fait le mal. De même aussi, il leur appartient de défendre le bien public par le glaive de la guerre contre les ennemis du dehors. C'est pour cela qu'il est dit au prince dans le psaume 82 « Soutenez le pauvre et délivrez le malheureux de la main des pécheurs » et que saint Augustin écrit « L'ordre naturel appliqué à la paix des mortels demande que l'autorité et le conseil pour engager la guerre appartiennent au prince. » Deuxième critère, il est requis une juste cause. Il est requis que l'on attaque l'ennemi en raison de quelques fautes. C'est pour cela que saint Augustin a écrit « On a coutume de définir guerre juste, celle qui punisse des injustices quand il y a lieu, par exemple de châtier un peuple ou une cité qui a négligé de punir un tort commis par les siens, ou de restituer ce qui a été enlevé par violence. » Troisièmement, troisième critère, une intention droite chez ceux qui font la guerre. On doit se proposer de promouvoir le bien ou d'éviter le mal. C'est pour cela que saint Augustin a écrit « Chez les vrais adorateurs de Dieu, les guerres mêmes sont pacifiques. » C'est une phrase qui mérite d'être méditée. « Chez les vrais adorateurs de Dieu, les guerres mêmes sont pacifiques. » C'est ça tout le problème, hein, dans la conception théologique de la guerre, chrétienne de la guerre, évidemment, c'est comment concilier l'interdiction de meurtre et le respect de la vie humaine avec l'infraction évidente à ce principe sacré que représente la guerre. Donc, chez les vrais adorateurs de Dieu, les guerres mêmes sont pacifiques. Saint Augustin, d'ailleurs, en savait quelque chose, qui a mis un peu d'ordre dans la doctrine chrétienne, par la lutte contre les hérésies, car elles ne sont pas faites par cupidité ou par cruauté, mais dans un souci de paix pour réprimer les méchants et secourir les bons. En effet, même si l'autorité de celui qui déclare la guerre est légitime et sa cause juste, il arrive néanmoins que la guerre soit rendue illicite par le fait d'une intention mauvaise. Saint Augustin écrit en effet, « Le désir de nuire, la cruauté dans la vengeance, la violence, l'inflexibilité de l'esprit, la sauvagerie dans le combat, la passion de dominer et autres choses semblables, voilà ce qui, dans les guerres, est jugé coupable par le droit. » Saint Thomas d'Aquin, somme théologique, Secunda Secundae, comme on dit, donc deuxième livre, deuxième chapitre, question 40, consacrée à la charité. Trois critères, donc l'autorité du prince, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la déclaration publique par une autorité légitime. La guerre ne doit pas être déclenchée par un particulier, mais bien pour le soin des affaires publiques. La juste cause, il faut qu'on attaque l'ennemi en raison de quelques fautes. En ce sens, on remarquera que la guerre juste est punitive. L'État, ici, se pose d'une certaine manière en arbitre qui se substitue à l'autorité d'un État ennemi pour faire ce qu'il aurait dû faire lui-même, à savoir châtier les siens. Et c'est intéressant de noter ça, c'est que dans cette critériologie première, dans cette première époque, disons, de la guerre juste, dans cette conception théologique de la guerre juste, la guerre juste apparaît comme une guerre corrective. Elle vient corriger des châtiments qui n'ont pas eu lieu et elle vient châtier des méchants qui auraient dû être châtiés. En ce sens, la première référence, le premier paradigme n'est pas celui qui prévaut aujourd'hui plutôt, et notamment après Grotius, avec d'autres théoriciens postérieurs de la guerre juste, à savoir celui de la légitime défense. On remarquera que la juste cause entendue par saint Thomas n'est pas la légitime défense, ce n'est pas à ça qu'il pense en premier. C'est plutôt une guerre corrective chez le voisin. Et on remarquera aussi au passage qu'effectivement, il ne s'agit pas d'une théorisation, comme on l'entend parfois dire, des croisades. Les croisades, entendues comme guerre sainte, ne rentrent pas dans la conceptualisation de la guerre juste. Même si d'autres théoriciens, comme Vittoria, avait déclaré les Sarrasins ennemis perpétuels et donc étant ennemis perpétuels d'une certaine manière et justifiait une guerre perpétuelle contre eux. Voilà, je ne sais pas exactement le lien, je n'ai pas eu le temps là d'éclaircir ce point, j'ai demandé à des gens censés s'y connaître mais qui finalement m'ont dit qu'eux-mêmes ne savaient pas, donc j'ai dit que mon ignorance était légitime. Qu'en est-il des croisades par rapport aux guerres justes? En tout cas, ce que j'ai lu à plusieurs reprises justement, c'est qu'il faut distinguer les guerres justes des guerres saintes, à partir d'un critère tout simple, c'est que les guerres saintes ouvrent sur un conflit potentiellement illimité, tandis que la guerre juste est d'abord et avant tout une théorie de la limitation de la guerre, de la régulation de la guerre, justement. Troisième critère, c'est ce critère de l'intention droite, et je le relève parce que ce critère est très marqué justement par le contexte de son énonciation, dans la mesure où il concerne vraiment l'intention, le fort intérieur du belligérant, et il est proprement un critère moral. dans une certaine mesure, il me semble qu'il n'est plus audible vraiment aujourd'hui, qu'il tend à être résorbé dans des questions plus juridiques aujourd'hui. Et ça, c'est une différence importante entre la doctrine moderne et contemporaine et la doctrine théologique. C'est que dans la doctrine théologique et antique, le juridique et le théologique, et donc le moral, tendent, ne sont pas nécessairement confondus, mais enfin, ils tendent à se superposer, alors que depuis en tout cas le XIXe siècle, nous avons tendance à séparer radicalement l'appréhension morale et l'appréhension strictement juridique. Nous essayons de les faire coller, mais nous admettons qu'elles sont distinctes. On y reviendra. Alors, dans la doctrine contemporaine, on ajoute souvent trois critères à ces critères classiques. Le critère du dernier recours, qui est au fond calqué sur les principes de la légitime défense en droit pénal. Donc, la guerre, pour être juste, doit être une guerre déclenchée en dernier recours, après que les solutions diplomatiques ou même que les pressions économiques ont échoué. En ce sens, la guerre n'apparaît plus comme une prérogative inaliénable de la souveraineté, l'expression même du pouvoir de l'État et de son jus ad bellum, de son droit à la guerre. Elle doit apparaître comme la dernière option. On ajoute également, là je me réfère au livre de Nadeau et Saada, les chances de succès, et ça va à mon avis modifier beaucoup de choses, parce qu'on entre dans ce qu'on appellerait une morale conséquentialiste, c'est-à-dire qui estime le juste à partir des conséquences qu'on peut en espérer, et non pas en évaluant l'acte en tant que tel, ce qu'on appellerait une morale déontologique. On oppose dans le champ de la morale souvent les conséquentialistes et les déontologues, Kant étant le tenant d'une morale déontologique, c'est-à-dire que ce sont les actes eux-mêmes en tant que tels et indépendamment de leurs conséquences qui doivent être évalués moralement, tandis que les morales conséquentialistes évaluent les actes, encore une fois, en fonction du calcul de leurs conséquences. Et enfin, troisième critère, la proportionnalité, qu'on retrouve aussi dans le droit de la légitime défense, la proportionnalité entre la riposte et l'attaque subie. Critère important, puisque, là encore, il permet de montrer à quel point le concept de guerre juste est lié à un principe de limitation de l'hostilité. Alors, il me semble que cette approche critériologique, cette approche par énoncé de critères, est rassurante. Elle nous donne l'impression de pouvoir saisir les situations et de pouvoir guider l'action. Et en même temps, on voit bien, il me semble, à quel point elle peut se renverser dans des querelles que j'appellerais scolastiques, dans un sens un peu péjoratif, des querelles d'école, des querelles de philosophes, là aussi je dirais comme ça, entre guillemets, des arguties conceptuelles qui vont finalement perdre le contact avec l'évaluation des réalités singulières des conflits et qui vont s'offrir à une instrumentalisation politique, soit pour justifier des interventions armées, soit pour la délégitimer. Le problème des concepts, c'est qu'on en a besoin, mais qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Comme dit Derrida dans une jolie formule, dans un tout autre contexte, dès lors que le concept est saisi, il est cuit. Et c'est un petit peu ça, le problème des critères, le problème d'une appréhension critériologique, comme ça, qui peut définir par des attributs spécifiques la guerre juste, nous piège parce que finalement on va du coup ouvrir un champ qui ne va plus être celui de l'évaluation d'une situation politique, l'évaluation politique d'une situation politique. On va autonomiser un champ de réflexion qui va donner lieu à des embranchements universitaires multiples et variés, à des discussions tous azimuts et qui vont finalement ouvrir à des interprétations et à des contre-interprétations et qui vont ouvrir sur la possibilité d'instrumentalisation ad nauseam des concepts. Autrement dit, la question des critères est importante, elle est inévitable, et en même temps, ça serait une de mes propositions ce soir à propos de ce concept de guerre juste, elle ne permet pas, en tant que telle, finalement, de résoudre la question de la manière dont on applique ces critères. Voilà. C'est bien de produire des critères, mais ça ne résout pas finalement le problème de l'application des critères. Et de ce point de vue-là, je défendrai une certaine autonomie de la pensée politique non pas la pensée politique des politistes, mais la pensée politique des politiques, c'est-à-dire ceux qui ont à prendre des décisions en situation, à saisir, comme dirait Aristote, le kairos d'une situation et à s'adapter à une situation pour prendre la juste décision. Et je pense qu'il y a une autonomie de la décision et de la volonté intelligente, mais de la volonté par rapport, disons, à la raison rationalisante et éventuellement ratiocinante des philosophes ou des académiques. Et que un des problèmes qu'on rencontre à propos de la guerre juste, c'est précisément l'hétérogénéité de ces deux champs, qui est un problème structurel. Ce n'est pas un problème juste de situation. Il ne suffit pas de dire « Ah, ça serait bien si on arrivait à les réconcilier, faisons parler des experts qui vont pouvoir conseiller les politiques. » Oui, on va le faire, mais en fait, ça ne va pas résoudre le problème de la juste décision à prendre au moment opportun, et qui sera profondément politique, au-delà de ce que j'appellerais philosophique. Alors, comme j'ai dit, une difficulté de la notion de guerre juste, c'est l'entremêlement de deux éléments que la pensée politique moderne a tenté de séparer, la morale et le droit. Pour les anciens, il me semble que cette frontière conceptuelle existe, mais elle n'existe pas de la même manière que pour nous, puisque dans des pensées qui sont profondément théologiques, que ce soit dans le cadre de la Rome antique ou du christianisme, le droit n'a de sens qu'en tant qu'il incarne des valeurs morales, et réciproquement, les motivations subjectives, comme par exemple la juste intention, doivent être codifiables, et donc sont susceptibles d'énoncés juridiques, juridicisables. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, à la suite du positivisme juridique, il me semble que nous avons essayé, dans une certaine mesure, de substituer le droit à l'interrogation morale, parce que nous vivons dans une période de relativisme moral. Il y a une multiplicité de systèmes de valeurs moraux, ils doivent pouvoir coexister, et néanmoins nous devons avoir des règles de fonctionnement. Et donc, la substitution du droit à la morale, dans la régulation de l'action publique et militaire en particulier, répond à un souci d'objectivation et de limitation de l'arbitraire. Il faut pouvoir poser des critères qui nous permettent de décider indépendamment de nos valeurs morales. C'est l'œuvre, par exemple, de Hans Kelsen, que je mentionnais tout à l'heure, un des auteurs que j'ai travaillé, qui essaye de montrer qu'il faut considérer séparément les normes morales et les normes juridiques pour éviter de considérer abusivement que tout ce qui est dans le droit serait, de ce simple fait, juste per se, juste en soi. D'accord ? Parce que c'est dans le droit, c'est juste. Au nom d'une association souvent rattachée au juste naturalisme, c'est-à-dire à la théorie du droit naturel, entre morale et droit. Le droit serait l'expression de la morale, et donc le droit serait l'expression du bien, et donc tant que j'agis selon le droit, j'agis bien. Alors non, il faut dissocier les deux pour pouvoir justement, chez Hans Kelsen, la visée de cette séparation, la visée politique de cette séparation, c'est de justifier qu'on puisse modifier le droit. C'est ça, finalement, le positivisme juridique. Il justifie qu'on puisse prendre position par rapport au droit et chercher à le faire évoluer dans le sens de ce qui nous paraît plus juste à un moment donné. Mais paradoxalement, cette autonomisation du droit provoque une forme d'effet pervers. À savoir que la forme juridique autonomisée, en tant qu'elle est la forme de l'état de droit lui-même, tend en fait, finalement, du coup, à se justifier d'elle-même, sans même avoir à donner lieu à une évaluation morale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre comme acquis le fait, l'existence du droit, et donc se dire qu'on a bien agi du moment qu'on a agi selon le droit. Voilà. De certaine manière, l'exemple type sur lequel que nous avons en tête et que nous redoutons, c'est celui des grands nazis, d'accord, qui on connaît la défense d'Eichmann à son procès en disant « j'ai agi selon les ordres voilà. ». Et donc, tant qu'on a agi selon les ordres, on est à l'abri finalement de la condamnation parce qu'on n'a fait qu'agir selon le droit. Et donc, il y a paradoxalement dans cette séparation entre le droit et la morale une forme de désautonomisation du sujet qui peut s'en remettre au droit aveuglément et qui n'a plus à se poser les questions de la morale et qui par là même en fait utilise le droit comme un instrument de justification de ses actes, parfois sans problème, mais parfois pour justifier justement ce qui est injustifiable. Et comme le droit, de plus, n'est pas un édifice pleinement cohérent et qui serait soumis à une logique mathématique et qui au moins aurait le mérite d'être évaluable justement en termes de cohérence logique, mais qu'en fait il est un système, je vais un petit peu vite, mais un système d'organisation de l'autorité, le droit est un outil qui permet aussi de légitimer une décision aussi bien que la décision contraire, une intervention par exemple ou une non-intervention. Et donc, on a une redoutable machine, en quelque sorte, dans la mesure où le droit devient par lui-même légitime et en même temps est un outil qui permet de légitimer tout et son contraire. Alors, c'est un petit peu radical comme vision des choses, mais effectivement, c'est cette dérive possible de la juridicisation de la politique internationale qui est ce qui sous-tend la critique que Carl Schmitt, comme je l'ai annoncé, a pu faire du droit international dans l'entre-deux-guerres et en particulier de ce qu'il diagnostiquait comme le renouveau du concept de guerre juste. Si Céline Join parle du retour de la guerre juste, elle n'en parle pas exactement aujourd'hui, elle en parle en fait dans l'entre-deux-guerres, le retour du concept de guerre juste tel que Carl Schmitt l'analyse, notamment avec la condamnation, la tentative de condamnation de Guillaume II après la Première Guerre mondiale, puis avec en particulier le pacte Briand-Kellogg en 1928, qui pose, dans son article 1, « Les hautes parties contractantes déclarent solennellement au nom de leur peuple respectif qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. » Alors, très belle déclaration d'intention, mise hors la loi de la guerre, tentative d'une communauté internationale pour saisir juridiquement le crime d'agression, le rendre pénalement responsable les dirigeants qui s'en rendent coupables, limiter l'arbitraire politique. Mais finalement, Schmitt interprète toutes ces bonnes intentions à contrario. Et il dit, il y a là une ruse de la morale, une ruse anglo-saxonne de la morale, le retour à des formes de guerre aussi inexpiables qu'ont pu l'être les guerres de religion. Et de ce point de vue-là d'ailleurs, il assimile complètement guerre juste et, pour le coup, guerre sainte, c'est-à-dire que derrière le mot même de guerre juste, et à l'époque, effectivement, un travail universitaire qui est fait autour de ce concept, etc., c'est la réhabilitation, le retour de ce concept, Carl Schmitt analyse l'idée qu'au nom de la justice, tout va pouvoir être fait, tout va pouvoir être légitimé, notamment, il analyse l'idée qu'une guerre qui va être menée au nom de l'humanité, c'est pour ça que je mentionnais le livre de Villemer, La guerre au nom de l'humanité, qui est d'inspiration schmittienne, quoique centrée sur des analyses contemporaines. Carl Schmitt dit que ces guerres qui vont être menées au nom de l'humanité contre des ennemis qui vont désormais apparaître comme des ennemis de l'humanité elle-même et non pas de tel ou tel camp qui se revendique dans sa particularité, ces guerres vont être inexpiables, elles vont être sans fin, elles vont être des guerres d'extermination. Au passage, on se souviendra que l'extermination qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était l'extermination des Juifs, qui était menée par le camp nazi, dont Schmitt se prétendait le défenseur, et que Schmitt semble avoir eu peu d'intérêt pour cette question-là, et que l'extermination qu'il redoutait, c'était plutôt l'extermination de l'Allemagne. Et je crois que ce à quoi il pensait, en particulier, c'était la guerre nucléaire et la perspective que l'Allemagne ou l'Europe centrale puisse être le champ de bataille d'une guerre nucléaire qu'il aurait effectivement rayé de la carte. En tout cas, Carl Schmitt appelle l'attention sur un concept abstrait d'humanité qui sert de recours pour justifier les guerres. Il a recours à ce mot de Proudhon qui dit humanité le fait pour tromper. Voilà une de ces formules comme ça utilisées par Schmitt et qui fait une partie de son succès. Qui dit humanité le fait pour tromper. Dès lors qu'il y a une revendication universaliste qui s'adosse à une conception soi-disant universelle de l'humanité, il faut lever ses antennes et se demander ce que vont devenir les ennemis de cette guerre contre l'humanité. À partir du moment où ils auront été considérés eux-mêmes comme hors de l'humanité et comme par la même quantité négligeable en quelque sorte. C'est ce que Schmitt appelle le virage vers le concept discriminatoire de guerre, c'est-à-dire que la guerre n'est plus la guerre duelle d'un ennemi contre un ennemi, entre ennemis qui s'estiment mutuellement, mais c'est une guerre opération de police qui criminalise l'ennemi et qui non seulement le criminalise, mais même le considère comme un monstre qu'il faut éradiquer. Et on ne donnera pas tort à Schmitt sur l'idée que les ennemis dans le discours aujourd'hui, y compris sur nos ennemis, contribuent à montrer l'ennemi comme un monstre, plus que comme un être humain qui obéirait à de motivations qui, si elles sont opposées aux nôtres, ont néanmoins leur propre rationalité ou leur propre justification. Alors Schmitt oppose à ce concept de guerre juste dans un sens abstrait un contre-modèle de guerre juste, c'est ce qu'il appelle la guerre en forme, telle qu'elle a été théorisée en particulier par Vattel au XVIIe siècle. Et si on juridicise la guerre, ce que dit Schmitt, c'est au fond, ce ne sont pas les causes de guerre qu'il faut essayer de saisir juridiquement, parce que les causes de guerre sont profondément politiques. Par contre, ce qu'il faut codifier, ce sont les modalités formelles de la manière dont la guerre est menée, et en particulier la distinction entre militaire et civil. Autrement dit, c'est un autre aspect de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine de la guerre juste, et c'est ce qu'on appelle le jus ad bello. La première liste de critères tirée de saint Thomas concernait le jus ad bellum, le droit à la guerre, le droit pour la guerre, pour faire la guerre. Et là, je crois que je me suis trompé, j'ai dit jus ad bello, c'est jus in bello. Le deuxième chapitre, c'est jus in bello, le droit dans la guerre. Alors paradoxalement, Schmitt est d'une certaine manière le promoteur d'un certain jus in bello adossé à une doctrine du XVIIe siècle. Je ne sais pas combien de temps il reste, si j'ai le temps de lire Vattel ou si on va passer par-dessus ça. Cinq minutes. D'accord, donc je ne vous lis pas Vattel, on verra après. Donc paradoxalement, Schmitt est un théoricien du jus in bello. Je dis paradoxalement parce que, en fait, la manière dont ce jus in bello prend corps effectivement, c'est à partir du camp libéral, à partir des ennemis de Schmitt et à partir justement de l'émergence de ce qu'on appelle un droit humanitaire et l'idée que la guerre peut être menée au nom de l'humanité, mais elle a aussi pour finalité l'humanité et de faire respecter des droits humains, même dans le cours de la guerre. Alors, il y a aussi une critériologie de ce jus in bello. J'en mentionnerai brièvement les critères. La distinction, le principe qu'on appelle le principe de discrimination, la distinction fondamentale entre les combattants et les non-combattants. Protection des populations civiles, qu'on trouve en particulier dans les conventions de Genève dès 1977. Et ça, évidemment, c'est à la fois un critère fondamental et, comme on le conçoit bien aujourd'hui, c'est un critère souvent difficile à établir. Dans le prolongement de ce principe, le respect des prisonniers de guerre, qui sont parfois mieux protégés de ce fait que les combattants considérés comme illégaux. Par exemple, à Guantanamo, justement, un des enjeux des États-Unis, c'était de qualifier les combattants de combattants illégaux pour pouvoir le soumettre à des régimes juridiques qui n'auraient pas valu pour des combattants réguliers. Troisième point, l'absence de représailles, en particulier l'idée que le mauvais traitement de nos prisonniers par l'ennemi ne justifie pas que nous mettions à maltraiter leurs prisonniers chez nous. Les exactions de l'ennemi ne fournissent pas la mesure de ce qui est licite pour nous, mais il y a un principe d'absence de représailles qui doit prévaloir et on ne doit pas se régler sur l'ennemi. Principe de proportionnalité, similaire à celui du jus ad bellum, mais ici dans la conduite de la guerre, par exemple, qui peut concerner l'utilisation de l'arme nucléaire comme moyen de guerre aujourd'hui. C'est un principe général d'interdiction des mots superflus, qui d'une certaine manière est la traduction de ce qu'on a vu chez saint Thomas avec l'intention droite, hein, qui disait il ne faut pas de cruauté superflue. D'une certaine manière, ça rejoint ici ce critère dans sa formulation nouvelle. Le respect des traités internationaux sur les armes prohibées, notamment sur tout ce qui est sur les armes chimiques ici. Mais là, c'est sur le fait que le pacta sunt servanda, comme on dit, c'est-à-dire que les traités internationaux doivent être respectés dans le déroulement de la guerre. Et puis enfin, un principe relativement abstrait, le refus des moyens mala in se, c'est-à-dire mal en soi, mauvais en soi. Par exemple, des ruses ignobles comme le fait d'utiliser des emblèmes de la Croix-Rouge pour se faufiler dans les lignes ennemies, le fait d'utiliser des enfants soldats, le fait d'utiliser des prisonniers de guerre pour les faire se battre contre leur propre camp, etc. Donc, ça, c'était le deuxième volet, si vous voulez. J'ai commencé par le jus ad bellum, avec son ancrage théologique. L'émergence du jus in bello plus tardif, soit à travers la condamnation de la guerre juste chez Schmitt, soit dans l'émergence de conventions qui font exister et qui retraduisent certains des critères anciens pour faire émerger un corps de doctrine du droit dans la guerre. Il peut exister un droit dans la guerre, ce n'est pas parce que la guerre est la guerre qu'on la mène n'importe comment. Alors le troisième point, et dernier point que je voudrais aborder, à partir de Michael Walzer, Guerres justes et injustes, c'est l'extension nouvelle du droit, de la guerre juste, à ce qu'on appelle le jus post bellum, le droit après la guerre. Alors Michael Walzer, à la fin des années 70, a renouvelé d'une certaine manière la réflexion sur la guerre juste en renouant avec une appréciation franchement morale des conflits, justement. Il était confronté lui aussi à ce problème du statut ambigu, de la saisie par le droit de la question de la guerre juste. Et sa réflexion commence bien avant le retour de la problématique de la guerre juste, notamment en 90 avec la première guerre du Golfe. Elle s'enracinait dans une action militante contre la guerre du Vietnam aux États-Unis. Et donc, il s'agissait pour Walzer, il me semble, de sortir des ornières d'une approche qui serait strictement juridique, et sans retomber néanmoins dans une appréhension morale de type théologique, qui aurait recours à une transcendance. Il s'agit donc de penser une morale et penser un jugement moral sans transcendance, dans l'immanence même des conflits, d'où un travail d'historien, en fait, qui va reprendre les grands conflits du passé pour essayer d'en tirer des critères. Et on change ici de démarche dans la doctrine de la guerre juste. Au lieu d'une critériologie qui serait définie a priori à partir de principes moraux, Walzer revendique un travail d'historien qui va étudier les conflits du passé et voir comment on peut, à leur sujet, énoncer des jugements moraux, in medias res, pas à partir de principes abstraits, mais plutôt en cherchant par induction, dans l'étude des conflits concrets, sur quels critères on les évalue. De ce fait, Walzer va ouvrir, à mon avis, un nouveau champ pour la guerre juste, c'est-à-dire l'évaluation de la guerre à partir de ses conséquences. La justice d'une intervention ne peut plus être réduite à une liste de critères a priori, parce que l'intervention militaire comporte des risques qui ne sont jamais complètement mesurables. Et donc, on ne peut évaluer finalement la justice qu'a posteriori. Et donc la perspective de l'après-guerre doit faire partie de l'entrée en guerre et de la menée de la guerre. Et autrement dit, il me semble que ce qui sous-tend la réflexion de Walzer, c'est que le militaire n'est pas un champ autonome par rapport à la politique. La tactique s'emboîte dans la stratégie, et la stratégie s'emboîte dans la vision politique. Et la prise en compte de cet emboîtement, c'est-à-dire la volonté d'avoir un point de vue global qui mesure les conséquences de nos actions, devient finalement un aspect lui-même de la justice de la guerre juste. La justice est dans l'exigence d'une globalité et d'un souci de discernement. Et du coup, les analyses de Walzer ouvrent la voie à une sorte de multiplicité de nouveaux concepts, une sorte de floraison de nouveaux concepts. Donc, j'ai mentionné le jus post bellum, théorisé par un autre américain, Brian Oren, dans The Morality of War. Mais on parle aussi, là, dans la littérature que j'ai pu fréquenter, maintenant de jus ad pacem, le droit pour la paix, une définition que j'ai relevée, l'ensemble des règles du droit, notamment la transition démocratique, et de morale, notamment la pacification des corps et des esprits, qui devraient avoir force de loi à la suite d'une juste intervention militaire, évaluée à l'aune de ses conséquences et de sa pertinence morale. On parle aussi de jus ex bello, droit hors de la guerre, nouvelle catégorie, je cite une définition, nouvelle catégorie visant à déterminer les critères de justification de la sortie des conflits, qui peuvent différer de la réalisation des objectifs établis au moment de l'entrée en guerre, c'est-à-dire que pendant le conflit même, on va réévaluer la manière dont il est juste de sortir du conflit, même si on n'a pas atteint les objectifs qu'on recherchait au départ. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dynamisation de la notion de juste cause. La notion de juste cause n'est plus posée a priori comme raison d'entrer en guerre, mais elle est réévaluée pendant le conflit. Et pendant le conflit même, on peut estimer qu'il y a une juste cause de sortir du conflit maintenant et de cette manière-là. Et donc, je relèverai deux points dans cette floraison de concepts. Le syncrétisme entre une approche juridique et morale. Les deux approches ne sont plus considérées comme antinomiques. Le droit, finalement, ajoute de la légitimité et la morale a besoin d'être codifiée. D'autre part, la distinction entre une morale des principes et une morale des conséquences, que je mentionnais tout à l'heure, n'apparaît plus comme extrêmement pertinente. Finalement, calculer les conséquences pratiques de nos actes fait partie de nos exigences éthiques, de même que les principes dont nous nous réclamons doivent répondre des conséquences concrètes qu'ils peuvent entraîner. Par exemple, on est bien d'accord, j'espère, j'imagine, qu'il serait inadéquat de déclencher une guerre nucléaire en réponse à l'annexion de la Crimée par Poutine. Ce serait peut-être fondé juridiquement, mais absurde d'un point de vue pratique et aussi irresponsable d'un point de vue moral. J'accélère pour conclure, peut-être. Donc je conclue en disant, voilà, au risque de trahir le concept de guerre juste, et je ne crois pas en trahir l'esprit, il me semble que la guerre juste devient une recherche générale de théorisation du discernement politique dans les relations militaires internationales, qui vise à se prémunir contre deux excès, le non-interventionnisme irresponsable, celui d'une souveraineté qui serait repliée sur soi, et un interventionnisme moraliste abstrait, qui préjuge de la puissance de l'État ou qui préjuge de la cohérence de la communauté internationale qui pourrait prendre des décisions considérées comme justes d'en haut. Dans le premier cas, on suppose une vision autarcique de l'État, un État qui pourrait se replier sur soi sans se préoccuper du monde. Et dans l'autre, on présuppose établir et figer une structure interétatique du monde, alors que précisément, c'est sa redéfinition qui est en jeu. Et c'est parce que cette structure interétatique du monde est en mouvement et que le rapport des forces est dynamique et non statique, qu'un travail de discernement est en permanence nécessaire et que l'adaptation au monde contemporain de la notion de guerre juste est pleinement nécessaire, elle aussi. Voilà, je vous remercie.
De la guerre, en quoi eh bien, on peut appliquer les notions qui sont les nôtres, d'une certaine morale, et comment, justement, dans ces conséquences, adossées à ces valeurs morales qu'on considère universelles, elles peuvent être à nouveau justes. Je suppose qu'il y a là des remarques, des questions, donc je laisse la parole tout de suite au public pour rebondir sur ce que vous avez dit, approfondir certains détails peut-être, ou éclairer peut-être d'autres points. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce retour à la morale, dans la guerre juste, justement, qui n'est plus simplement axé sur la question de causalité, mais sur quoi on se base, enfin, est-ce qu'il existe aujourd'hui une volonté dans les théoriciens de la guerre juste de définir aussi ce qu'est une morale, je dirais générale, pour définir, redéfinir ce que pourrait être une guerre juste en rapport avec cette morale, qui serait une morale, disons, universelle.
Alors,
on l'a abandonnée.
Alors, Oui, en partie, bien sûr. Ou alors on accède à une nouvelle figure de l'universalisme qui consiste, c'est ce qu'on voit dans les sciences sociales en général d'ailleurs, à savoir finalement d'essayer d'intégrer dans la réflexion même, la conscience du point de vue d'où on se place. Voilà. Le sociologue va essayer d'intégrer sa propre posture de sociologue et les effets que peut produire sa présence en tant que sociologue dans le milieu qu'il est en train d'étudier. Et finalement, l'objectivité n'est pas une objectivité d'en haut, c'est une objectivité obtenue par une forme de réflexivité, par le fait qu'on admet qu'on sait d'où on se place, et donc éventuellement on l'assume et on le revendique. En ce sens, on peut par exemple évaluer des conflits à partir d'un jugement moral qui admet que nous portons des jugements moraux en fonction des valeurs qui sont les nôtres, que ces valeurs peuvent être ouvertes, soumises à discussion, ça fait partie de l'évaluation, mais ça fait partie de la discussion possible, ça fait partie éventuellement de la négociation avec l'ennemi, voilà, on essaie d'expliciter au maximum les présupposés à partir desquels on parle. Ce que j'ai dit rapidement à propos de Walzer, c'est que, Walzer dit explicitement, si j'avais essayé de construire une théorie morale, a priori, pour pouvoir évaluer les conflits, il est probable que je me serais abîmé dans cette considération abstraite de morale et que j'aurais jamais commencé à réfléchir sur les conflits. C'est pour ça que j'ai changé de perspective. J'étudie d'abord les conflits et j'essaie d'en déduire des jugements moraux et éventuellement, à l'horizon de ça, il y aurait une théorie morale. Mais cette théorie morale, désormais, effectivement, n'est pas le point de départ. Elle est un horizon après lequel on va courir tout en continuant de porter des jugements. C'est la même démarche que proposé Descartes au XVIIe siècle, dans un tout autre contexte, en proposant une morale provisoire. Vous vous souvenez peut-être de ce texte dans le discours de la méthode où il dit « La morale, c'est important, c'est même ce qu'il y a de plus important, mais au fond, la vraie morale, on ne la connaîtra que quand on aura la science complète. Et comme on n'a pas la science complète, parce qu'elle ne fait que commencer, et qu'il faut bien vivre, on va se donner une morale provisoire selon un certain nombre de principes. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette situation-là, et qu'un de ses effets, quand même très concret, c'est cette extension de la notion de guerre juste à tout ce qui concerne l'après-guerre. Et donc à la volonté d'envisager, quand on appréhende les conflits de manière morale, les envisager de manière globale avec un calcul fin des conséquences et, de ce fait, un jugement sur les pouvoirs et une réclamation, une exigence de la part de nos stratèges, enfin, adressée à nos stratèges, adressée à nos généraux, adressée à nos politiques, adressée à nos décideurs, de réfléchir à ce qu'ils font et de réfléchir aux conséquences que vont avoir les décisions qu'ils vont prendre. D'une certaine manière, dans l'opposition en 2003 entre Chirac et Bush, il y avait, donc la position continentale contre la position américaine, il me semble qu'il y avait quelque chose de cet ordre, Chirac disant « j'ai un petit peu d'expérience des relations internationales dans ma carrière politique et je n'entamerai pas une guerre trop vite ». Aujourd'hui même dans Le Monde, prévoyons votre question, il y avait un article dans la rubrique Culture et Idées sur les problèmes de nation building, la reconstruction d'État. Je soulignais cette phrase-là. Donc l'idée d'entamer des guerres pour reconstruire entièrement de fond en comble les États qu'on a d'abord réduits à néant. Ces jours-ci, à Washington, personne n'aurait le mauvais goût de prononcer les mots de « nation building ». Ce qu'il y a de bien avec les Américains, commente ainsi Carl Bildt, c'est qu'ils peuvent être très optimistes, ils considèrent qu'on peut faire les choses. Ce qui est moins bien, c'est qu'ils pensent que cela peut être fait très vite. Et quand ils en ont assez, ils s'en vont. On pense par exemple à l'Irak, évidemment. Enfin, c'est de ça qu'il s'agit d'ailleurs. Nous, les Européens, on a une approche plus réaliste, on est sceptique sur les chances de réussir, mais quand on y va jusqu'au bout. C'est peut-être un peu optimiste sur l'Européen, mais enfin, en tout cas, c'est voilà, un dualisme qui est bien tranché. Et je crois que c'est important, si on s'engage dans une telle situation, il faut être prêt à y rester. Et effectivement, on a typiquement ici une évaluation politico-morale de l'entrée en guerre, qui consiste à dire l'entrée en guerre, ce n'est pas juste éradiquer l'ennemi, tuer le gouvernant, mais c'est prendre en compte les désordres qu'on va créer dans la société qu'on attaque, surtout dans le conflit complètement asymétrique qui fait qu'on bombarde de loin et qu'on lamine toute l'infrastructure. Et peut-être qu'on a gagné la bataille, comme on dit, peut-être qu'on a gagné la guerre même, mais on n'a pour autant pas résolu le problème, pas résolu le conflit. Et il me semble que s'il y a un progrès dans la réflexion morale sur la guerre, c'est tout bête au fond, hein, mais finalement c'est l'idée que la guerre n'est pas un objet autonome, précisément parce que on a changé de contexte, c'est-à-dire qu'on ne peut plus penser la guerre comme une guerre d'État à État constituée, qui se ferait la guerre sur un certain point et dont l'intégrité serait préservée par la guerre. On est dans des conflits dans lesquels l'entrée en guerre va réduire à néant, soit va réduire à néant la société attaquée, soit va réveiller des conflits dans des sociétés qui sont en fait fragiles dans leur constitution fondamentale, comme par exemple l'Irak ou la Libye ou la Syrie, c'est-à-dire des sociétés dont l'unité est bâtie sur la réduction, la Yougoslavie c'était pareil d'ailleurs, sur la réduction de conflits civils, enfin civils, de guerres civiles qui ont été temporairement réduits. Et quand on déclenche la guerre chez eux, tout l'équilibre de cette société s'effondre. Et donc, il faut le savoir à l'avance et il faut en tenir compte et être prêt à faire ce qu'il faut pour soit ne pas tout détruire pendant la guerre pour qu'il y ait les moyens de recoller les morceaux après, soit rester suffisamment longtemps ensuite. Comme je disais dans le même article qu'il y a encore 1600 policiers étrangers dans les forces de police au Kosovo aujourd'hui. Donc il faut être prêt à rester longtemps pour assurer l'équilibre politique dans les régions qu'on a contribué à déstabiliser, même si on les a attaquées de manière légitime. Pardon.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ?
Mais par exemple, en 2003, quand les États-Unis ont décidé la guerre, sont partis, ils n'avaient pas l'accord de l'ONU ?
Non, bien sûr. Oui, alors plus ou moins quand même. C'est-à-dire que les Américains ont décidé d'entrer en guerre sans l'aval de l'ONU. En même temps, ils se sont préservés. Alors justement, le concept, c'est là que je disais qu'il y a la branche morale et il y a la branche juridique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais justement, c'est là que je dis, c'est ce que je disais de manière incidente à la fin, c'est que... il ne faut pas surestimer ce qu'est l'ONU, c'est-à-dire qu'il n'est pas le représentant. Avec l'ONU, on a le fantasme d'un retour d'une puissance transcendante qui nous permettrait d'en haut de déterminer ce qui est juste. Et c'est l'horizon politique auquel nous tendons. Mais nous sommes obligés de reconnaître que l'ONU n'est que le reflet des États qui le composent et donc le reflet des conflits et des rapports de force qui le constituent. Alors dans certains cas, ça marche parce qu'il y a consensus. Mais dès lors qu'il n'y a plus consensus entre certaines des grandes puissances, l'ONU, c'est pas que, je ne dirais même pas que l'ONU est bafouée, c'est juste que l'ONU n'est plus pertinent. Alors, cela dit, le droit étant un des éléments de la légitimation, on remarquera que même si les États-Unis n'ont pas agi sous couvert de l'ONU, ils ont pris soin quand même de ne pas agir contre un veto. Voilà. Ils ont quand même pris soin, ils ont quand même pris les formes juridiques pour se prémunir. Mais c'est là aussi qu'on voit simplement que la revendication de guerre juste n'est pas exactement la même chose que la guerre légale, disons. Mais aussi, encore une fois, sur le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui une communauté internationale suffisamment soudée pour que puisse être définie une guerre légale. Et justement, de ce point de vue-là, le modèle de la première guerre du Golfe, qui lui était le paradigme de la guerre légale menée certes par les États-Unis, mais sous couvert de l'ONU, a fait croire provisoirement un renouveau du droit international, un regain du droit international, à la victoire, enfin la constitution justement de l'ONU comme communauté internationale qui permettait d'en haut de définir une guerre juste par excellence, qui était donc celle de 90-91. Et la deuxième guerre du Golfe, celle de 2003, a montré que ce paradigme avait vécu. Voilà.
Est-ce que la morale ne sert pas de prétexte à la véritable motivation d'une guerre ? Parce que, bon, sous couvert de on va défendre les pauvres opprimés, etc.,
la motivation n'est jamais là. C'est toujours la recherche de pétrole, de je ne sais pas quoi. Enfin,
alors, oui, morale contre intérêt. Oui, oui. Alors là, je dirais, enfin, personnellement, je serais assez convaincu que la morale est quand même inévitable et que aucun gouvernant ne peut assumer une pure politique de l'intérêt. Il y a une très belle phrase de Kant. Je l'ai quelque part dans un des livres, mais ce qui dit aucun État n'a jamais agi explicitement contre la morale. Et il y a une chose toute simple, c'est qu'un gouvernement a besoin de légitimation et il a besoin de pouvoir justifier ses actes auprès de sa population. Et à moins d'avoir une population de va-t-en-guerre forcenée, la légitimation cynique, enfin, la justification cynique qui consiste à dire « il faut qu'on y aille parce qu'il faut qu'on sécurise le pétrole », n'est pas audible dans l'opinion publique, dans les démocraties. Oui, 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 ils le disent pas, mais ils le font, mais ils ont besoin de faire valoir des justifications morales. Et si ce n'est pas celle du complexe militaro-industriel qui mène la danse, c'est celle des opinions publiques. Alors, à moins qu'on suppose qu'il y a une complète autonomie, un petit peu dans une optique théorie du complot, d'un groupuscule qui mène la danse et qui veut agir de manière purement cynique, si on admet qu'il y a quand même une perméabilité entre les gouvernants et la population, etc., je crois qu'il y a des justifications morales, enfin, je veux dire, qui sont de bonne foi, qui sont réelles. Et alors, j'ajouterai un autre, pour répondre à votre question, un autre élément, qui est que la morale pure n'existe pas. C'est-à-dire que, par ailleurs, Walzer le dit de manière assez drôle, un jour régnera le règne des fins, où les hommes agiront au nom de la justice pure. Un jour n'arrivera pas, d'ailleurs, ce sera, voilà. Après le deuxième avènement, alors on agira de manière juste. Aujourd'hui, nos motivations sont toujours entremêlées. Kant le disait d'ailleurs aussi, Kant qui est le penseur d'une morale, il est le penseur de la morale inconditionnelle, mais pas en pensant qu'on peut vraiment agir de manière morale, de manière inconditionnelle. Kant dit on ne sait jamais exactement quelles sont nos motivations. Nos motivations sont toujours troubles. Elles sont à la fois morales, même quand je crois être moral finalement, même si quand le commerçant rend la monnaie de manière exacte, est-ce qu'il agit par pure moralité ou est-ce qu'il le fait pour qu'on revienne dans son magasin parce que, voilà. Donc les calculs d'intérêt, si vous voulez, ils sont toujours présents. Et s'il n'y avait pas de calcul d'intérêt, il n'y aurait pas d'action, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que les motivations morales sont nulles. Voilà. Alors après, il y a différentes situations. Et différentes. Après, il faut évaluer au coup par coup. Il y a des cas où, oui, c'est, disons, le complexe militaro-industriel qui agit dans des vues parfaitement cyniques, mais y a pas, on ne peut pas faire l'économie de la morale, je dirais, en fait. Et on ne peut pas faire l'économie de l'intérêt non plus. On est obligé de jongler entre les deux motivations. Elles seront toujours toutes les deux présentes. C'est ma réponse. Ah non. Oui, bien sûr. Non, mais... Il y a des justifications morales, des revendications morales. Je n'ai pas dit qu'elles étaient justes en soi. Ce n'était pas ça le sens de ma réponse.
Je trouve intéressant, justement, après ce que vous avez dit, dans une perspective chrétienne plus particulièrement, de prendre en compte la dimension de la conscience individuelle. Qui ferait dire, par exemple, dans une guerre injuste, un soldat peut choisir d'agir de manière juste. De mettre une limite à ses agissements. Et à l'inverse, dans une guerre juste, quelqu'un pourrait se comporter de manière anarchique. Et là, je prends en référence le dialogue de Jean-Baptiste avec des soldats. Les soldats viennent voir Jean-Baptiste en disant « qu'est-ce que nous devons faire ?» Et celui qui prêchait la repentance aurait pu dire « rentrez dans vos champs, cultivez vos terres. » Il dit « ne commettez ni fraude ni extorsion et contentez-vous de votre solde. » Et là, il fait appel à la conscience d'individus qui sont éventuellement engagés dans des conflits qui ne seraient pas justifiés peut-être, mais dans leur conscience, ils ont une possibilité d'agir dans le droit quelque part. Hein.
Oui.
Et je pense aussi au droit français qui demande évidemment à un soldat d'obéir à ses supérieurs, mais qui l'autorise ou même lui demande de désobéir à un ordre inique.
Absolument. C'est prévu, j'allais le dire, c'est prévu dans le code pénal. C'est la théorie dite
des... Un soldat sera puni s'il désobéit, parce qu'évidemment, il y a des paramètres qui lui échappent et ce n'est pas à lui de tout évaluer parce qu'il ne connaît pas toutes les données. Mais si on lui demande de tirer sur des enfants, il peut dire en aucun cas, je ne veux le faire.
C'est la doctrine dite des baïonnettes intelligentes.
Ah bon.
Voilà. Je ne sais plus quel est l'article de tête, je dirais 125, mais c'est vraiment audacieux comme ça, parce que je le travaille parfois avec mes étudiants. C'est un article du Code pénal, effectivement, qui prévoit et qui engage à la désobéissance militaire quand les ordres sont manifestement dérogatoires par rapport au droit de la guerre.
Oui. C'est-à-dire qu'il ne revient pas au soldat d'évaluer si une guerre est juste ou pas.
Oui,
c'est pas le moyen, voilà. Sauf si c'est évident. Enfin bon.
Non, c'est le jus in bello, c'est pas le jus ad bellum. C'est-à-dire c'est dans la conduite de la guerre. Par contre, on ne l'autorise pas à évaluer s'il faut ou non entrer en guerre. Par contre, on l'autorise à évaluer s'il faut ou non brûler, piller ce village et commettre un certain nombre d'exactions. Voilà, ça fait. Absolument.
Monsieur, vous avez une question ?
Ah oui. Dans un monde qui évolue, l'intérieur de la télévision, c'est tout. D'abord, on aura le problème de l'explosion démographique, le problème très climatique, très important. Est-ce que les solutions peuvent être figées ? Est-ce que le droit peut être respecté ? Imaginez les gens qui n'ont plus à manger, ils iront obligatoirement à l'État voisin. Ils ne demanderont pas l'avis de l'État voisin.
Oui. Bien sûr, oui, bien sûr. Ben, le droit est toujours, là encore, hein, il y a une illusion à croire que le droit serait fixé et viendrait d'en haut, en quelque sorte, et serait sans rapport avec la réalité de la société. C'est-à-dire que le droit, pour être efficient, pour avoir un minimum d'efficacité, évidemment, il ne doit pas être soumis à n'importe quelles exigences sociales, puisque sinon il perdrait son rôle régulateur et ce serait la société qui réglerait le droit et non plus le droit qui réglerait la société. Et en même temps, pour que le droit puisse régler la société, il faut qu'il soit adapté en quelque sorte au monde comme il est. De ce point de vue, je dirais, enfin disons, je ne sais pas si c'est optimiste ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas parce que le droit est bafoué que l'ONU, madame est partie, mais enfin que l'ONU ne fonctionne pas, que le droit ne reste pas notre horizon et qu'il faut trouver, réformer le droit justement pour qu'il puisse être en prise de manière raisonnable avec les réalités qu'il faut régler. Je regardais, c'est un tout autre sujet, mais pour le 40e anniversaire de la légalisation de l'avortement, je regardais le discours de Simone Veil à l'époque et où elle a un discours très mesuré qui ne concerne absolument pas finalement la question même du respect de la vie humaine, mais qui est entièrement politique et qui dit si nous ne régulons pas aujourd'hui, ce seront les premières à en pâtir, seront les femmes des milieux les plus défavorisés. Et donc il y a là une réalité que nous devons réguler d'une manière ou d'une autre. L'interdiction pure et simple ne fonctionne pas et donc on est dans un droit qui est tellement inapplicable que de toute façon, et dont l'application, dans la tentative d'application rigide, crée du désordre public au lieu de le régler. C'est comme la prohibition aux États-Unis. Voilà. Quand le droit devient créateur de conflits, créateur de dangers pour les gens, il faut bien, en quelque sorte, l'adapter aux réalités sociales qu'il doit réguler. Voilà. Simplement pour. Oui. Peut-être, dernière question, peut-être.
Oui, dernière question.
En se référant au débat entre le droit et la morale, je voudrais savoir si on peut concilier, ou si possible, comment concilier le droit et la morale dans l'opinion de la communauté internationale actuelle, en se référant au débat entre les droits de l'homme, la défense des droits humains et les droits des homosexuels, et les pays, disons les pays africains, qui votent des lois contre la pratique de l'homosexualité. En fait, normalement, et dernièrement, il y avait certaines grandes puissances, comme les États-Unis, qui ont, il y a un cas pratique de l'Ouganda, le président de l'Ouganda, il paraît le Parlement invoqué une loi contre la pratique de l'homosexualité. Et Obama a dit que, bon, que l'Ouganda doit accepter l'homosexualité. Et le président il a dit que si Obama veut que j'accepte l'homosexualité chez moi, il doit d'abord venir ici, je vais me marier avec lui, et après je vais accepter l'homosexualité. Alors, dans ce cas, je veux savoir est-ce que, face à certaines organisations internationales qui défendent les droits des homosexuels, et certains pays qui votent des lois contre l'homosexualité, c'est un débat entre la morale de ces pays-là et les droits de l'homme. Donc, est-ce qu'on peut vraiment concilier ou comment, si c'est possible?
Alors, on aurait mieux fait d'interrompre avant parce que là, c'est vraiment un vaste débat. C'est un vaste débat et qui nous éloigne un petit peu de la thématique de ce soir, qui nous en éloigne, mais en même temps, qui pose la question que j'avais posée au départ du relativisme des valeurs et de la question de la. Justement, de, est-ce qu'on peut définir, disons, un ordre a priori transcendant et, ou bien est-ce qu'on doit en rester à un relativisme pur où, voilà, où chacun va rester dans son coin Il y a des conflits de valeurs qui peuvent concerner les homosexuels, qui concernent aussi de manière peut-être encore plus statistiquement plus importante la question du statut de la femme dans un certain nombre de sociétés. Comment dire, on est dans des rapports de force hein, et des rapports de conflits. Et d'adaptation mutuelle, en quelque sorte, d'adaptation mutuelle qui sont impossibles. Voilà. Comment dire Là, je crois qu'il n'y a pas de régulation par le haut possible. Il n'y a que de la négociation et du compromis possible. Et il ne faut pas croire que les conflits ont tous pour horizon d'être résolus. Ils peuvent aussi se maintenir très longtemps.
C'est vrai que la question, bon, on ne va pas rebondir, mais la question est quand même intéressante, parce que l'intervention d'Obama de dire « le droit international dit », au fond, et il pose la question de la légitimité du droit qui pourrait s'imposer de manière transcendante. Or, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le droit est aussi complètement subjectif. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a cette tendance quand même, cette espèce de volonté transcendante où on veut présenter le droit comme une espèce de valeur suprême qui serait parfaitement objective, et s'imposant contre des valeurs morales qui, elles, sont relativisées. Or, le droit est aussi relatif.
Oui. Voilà, je veux dire... Oui, enfin, surtout le droit international.
Mais le droit des nations...
Oui, mais pour qu'il puisse s'imposer, disons, ici, on parle d'imposer quand même quelque chose qui est posé au niveau international à l'intérieur d'États. Et en fait, il y a une sorte de dialectique du droit international qui fait sa force, en vérité. C'est sa force faible, peut-être, mais c'est quand même sa force. C'est que le droit international est un recours pour beaucoup d'États. En particulier, il l'a été pour les pays du tiers-monde dans les années 60, avec la conférence de Bandung, etc. Donc le droit international de l'ONU, qui apparaît parfois comme l'instrument de l'impérialisme, il ne faut pas oublier qu'il est aussi un outil anti-impérialiste de la part de ce qu'on appelait jadis les États du tiers-monde. Et de ce point de vue-là, le droit est objet de négociation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire le droit international... au nom de valeurs qui sont en fait, disons, occidentales au centré, va vous imposer de faire ceci ou faire cela. Mais il s'agit de dire à certains États, si vous voulez être intégré à la communauté internationale et donc bénéficier des protections que vous offrira à vous le droit international, alors il faudra se plier à un certain nombre de conditions qui sont inhérentes, qui concernent la protection des individus, des droits des individus, et donc des femmes, des homosexuels et de l'ensemble des minorités. Et en fait... c'est là qu'il y a une dialectique, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'imposer d'en haut des valeurs ou un droit qui serait au-dessus des nations et de les imposer dans une démarche qui serait néo-impérialiste. Il s'agit de faire valoir un ordre international auquel chacun peut tirer avantage, mais simplement, pour en tirer avantage, il faut se rallier à l'ensemble de ce qu'il propose. Et on ne peut pas, d'un côté, réclamer des protections pour son État tout en opprimant une partie de sa population, par exemple.
Voilà. Bien, je vous propose de clôturer ici cette rencontre. Je vous rappelle juste que la semaine passée, nous avons reçu Catherine Chalier, qui est professeure émérite à Nanterre. Et vous pouvez réécouter la conférence sur le site de la Librairie Jean Calvin, pour ceux qui n'ont pas pu le dire. Vous pourrez aussi, on verra avec Emmanuel Pasquier, peut-être écouter sa conférence.